les 60 ans de la copropriété. Entre héritage et renouveau, en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâtisanté, jeudi 10 avril 2025 sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo, toujours en direct du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour ce 12e forum organisé par l'UNIS. Et j'ai le plaisir d'être avec Hugues Périnet-Marquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du CNTGI, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Vous êtes également professeur émérite à la fameuse université Assas, Panthéon Assas. Alors, vous avez participé à une table ronde qui questionne les fondations même de la loi de 65. Donc là, on est 60 ans après l'anniversaire de cette loi, après sa promulgation. Est-ce qu'on peut dire que le cadre qu'elle a posé est toujours adapté à nos copropriétés modernes ?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'évidemment, elle a été pensée dans un environnement complètement différent. Et la question, c'est est-ce qu'elle est suffisamment souple pour pouvoir s'adapter ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a un squelette juridique très solide qui a passé l'épreuve du temps. Maintenant, pour l'adapter, on a, au cours de lois successives, rajouté énormément de dispositions qui font que, en volume, la loi représente aujourd'hui à peu près 7 fois son volume initial. Donc il y a eu une transformation considérable, finalement, du volume de la loi. Est-ce que cette transformation est suffisante pour adapter la copropriété ? C'est un peu un perpétuel combat entre l'épée et la cuirasse, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter et puis il y a de nouveaux phénomènes, etc. Et il n'y aura jamais, de toute façon, une loi qui sera à un moment donné parfaite par rapport à un environnement social.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer les piliers essentiels de cette loi qui reste pertinent aujourd'hui ?
Alors, le pilier essentiel, c'est que le législateur de 1965 a conçu cette loi comme donnant des pouvoirs autour du droit de propriété. Copropriétaire, c'est d'abord, ça a été vécu comme, c'est un propriétaire qui vit en collectivité. Mais c'est un propriétaire, il a un vrai droit de propriété, il n'a pas un droit d'associé, on n'est pas en société, on n'est pas en association. C'est pas le système anglo-saxon du condominium. Ça, c'est un premier fondamental. Le deuxième fondamental, c'est qu'on a une loi d'ordre public, une loi protectrice, justement, des intérêts des copropriétaires et qui évite que certains copropriétaires puissent, notamment au regard du paiement des charges, avoir des critères, par exemple, discriminatoires à l'égard des autres.
Et justement, alors là, on parle beaucoup des évolutions des copropriétés. Les copropriétés de 2025 ne sont pas les mêmes que celles de 1965. Aujourd'hui, il y a des exigences environnementales, des exigences technologiques, sociales. Comment vous voyez cette évolution ? Comment vous la percevez ? Et puis, comment la loi, en tout cas, s'adapte au fur et à mesure du temps ?
Sur les aspects que vous avez à juste titre souligné, la loi a réagi par une suite d'obligations mises successivement à la charge des copropriétaires. Alors pour la bonne cause, bien sûr, qui est la cause environnementale, mais la question qu'il faudra se poser, c'est de savoir si le calendrier est un calendrier réaliste. Et puis la question aussi, c'est celle de savoir si les copropriétaires pourront à long terme supporter les charges qui découlent de ces nouvelles obligations, alors que déjà les charges de copropriété hors rénovation énergétique ont sérieusement augmenté, que les impôts liés à l'immobilier augmentent. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, parce que si on disait aujourd'hui à un copropriétaire de 1965 ce que devra payer un copropriétaire de 2025 ou 2030 au regard des charges et des travaux, il serait certainement très surpris.
Alors justement, là, avec ce que vous évoquez, pensez-vous qu'il faille une refonte peut-être globale du cadre législatif de la copropriété, ou est-ce qu'on peut continuer à avancer comme ça, par petites touches, comme ce qui se passe depuis 60 ans, en fait ?
Il n'y a de toute façon pas de solution parfaite, parce que pour résoudre les difficultés actuelles, qui sont des difficultés essentiellement créatrices d'obligations financières, je dirais la loi ne peut pas grand-chose. C'est pas la loi qui rendra les copropriétaires plus riches, c'est pas la loi qui leur permettra de mieux payer leurs charges de copropriété et les charges toujours plus élevées. Donc, la vraie réponse ici, c'est une réponse de savoir quelles seront les aides que l'État donnera, etc. Sur la loi elle-même, on a déjà eu en 2019 une refonte quand même assez importante des textes. Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'une autre réforme ? Alors, ça fait que 5 ans que celle-là a été prise, donc on peut peut-être attendre un petit peu. Et en tous les cas, oui. Si on fait une réforme, il faudra que ce soit une réforme pensée globalement, parce que le grave défaut des réformes successives qui ont eu lieu, c'était précisément qu'elles s'ajoutaient les unes aux autres sans coordination suffisante.
Alors vous présidez, je l'ai dit en début d'interview, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, le CNTGI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les actions que vous faites et puis vos gros chantiers du moment justement?
Alors, le CNTGI, donc c'est un organisme interministériel, justice, logement et économie, qui a pour rôle de donner un avis consultatif, comme le CNH, sur un certain nombre de textes de loi relatifs aux professions immobilières et à la copropriété. Et à ce titre-là, le CNTGI a rendu... plus de 70 ou 80 avis depuis sa création, enfin dans sa nouvelle forme en 2019, sur des textes. Et on a à plusieurs reprises fait évoluer des textes, notamment la réforme de 2019 qui a été discutée pendant une centaine d'heures au sein du CNTGI, donc ce n'était pas du tout négligeable. Donc cet aspect avis sur la loi est très important. Il y a un autre aspect qui était prévu dans la loi qui était... qu'au sein du CNTGI devait être constituée une commission de contrôle des professions immobilières. Et cette commission de contrôle, pour des raisons peut-être non expliquées, n'a jamais été mise sur place, sur pied, par le législateur, par le ministère en tous les cas. Et donc il y a quand même ce manque qu'aujourd'hui les professions immobilières n'ont pas de véritable instrument de contrôle tel qu'il était prévu, d'où la question récurrente qui se pose parfois, est-ce qu'il faut créer un ordre professionnel ou pas?
Et ça, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement?
Ça c'est une question de choix politique du législateur. Ouais. Hein. Est-ce qu'il voudra finalement créer la commission de contrôle, aller plus loin au niveau d'un ordre professionnel, sachant que l'ordre professionnel, c'est une structure plus lourde, c'est une structure plus coûteuse.
C'est ça, parce que j'allais dire, vu le budget actuel, on connaît la situation de notre pays. Ce sera difficilement concevable, j'imagine?
Ce sera concevable dans la mesure où on fera payer les professions pour l'ordre professionnel.
C'est pas le moment, en tout cas. Pas le moment.
Voilà, on peut en discuter.
Comment vous voyez l'évolution du rôle du syndic dans les années à venir, notamment face aux défis de la rénovation énergétique, dont on parle beaucoup en ce moment?
Oui, bien sûr. Je crois que c'est un rôle très, très difficile parce que à la fois le législateur a voulu que ce soit un peu l'entraîneur, le moteur, celui qui arrive à convaincre les copropriétaires, et on s'aperçoit que c'est une tâche qui est quand même délicate puisque... il faut convaincre les copropriétaires de se lancer dans des dépenses très importantes. Je rappelle qu'on chiffre souvent la rénovation d'un appartement à 20-30 000 euros en moyenne. Donc pour certains copropriétaires, ce sera plus, qui se rajoute aux charges. Et donc, je ne sais pas si cette tâche qui est dévolue au syndic, ils pourront la remplir avec l'efficacité nécessaire, parce que de toute façon, face à une assemblée générale qui refuse le vote des travaux, le syndic n'a pas grand-chose. Il peut juste rappeler la loi, mais il n'a pas de pouvoir de coercition.
Alors, on évoque souvent la lourdeur du processus décisionnel en assemblée générale. Est-ce un frein, selon vous, structurel à la modernisation de la copropriété et est-ce qu'on peut y remédier peut-être sans déstabiliser, j'ai envie de dire, la démocratie en interne?
Non, on ne peut pas y remédier sans toucher la démocratie, parce qu'aujourd'hui, on est déjà à des majorités très basses, en fait. Avec les différentes passerelles, on est quasiment à 24. Donc, on peut difficilement descendre vraiment en dessous. Ce qui fait que le choix, c'est d'imposer d'une manière ou d'une autre. Et si on impose, Alors ça peut être de manière indirecte, c'est-à-dire que finalement on va sanctionner les copropriétés qui ne font pas les travaux, et donc ça va obliger les assemblées générales à se positionner.
Bien sûr.
Bon, voilà. Mais dans le cadre d'une démocratie, on ne peut pas dire... la démocratie, c'est le choix, la liberté du choix. Et là on dit, ben, si la liberté du choix empêche de faire un certain nombre de choses. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on supprime la liberté du choix. C'est pas une question de majorité.
Ouais, bien sûr. Alors pour résumer et puis pour clôturer, si vous deviez fixer une seule, une grande priorité législative pour les années à venir en matière de copropriété, quelle serait-elle?
Ah ben, je crois qu'il faut que le législateur soit très prudent et il a, à mon avis, un choix qui est assez simple. Soit il laisse les choses en état et il laisse digérer les différentes réformes, soit il envisage une réforme globale mais vraiment pensée, vraiment globale, dans laquelle on va intégrer toutes les réformes successives, mais on ira plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout faire un code à droit constant, parce que ça, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment se dire quelle copropriété on veut pour demain, mais c'est un choix politique, et comment est-ce qu'on met ça dans la loi. Avec, pour moi, un objectif qui doit être très fort, c'est celui d'une simplification. Si on pouvait... de aujourd'hui 175 pages de la loi et du décret, ouais, revenir à 100 ou à 50, ce serait quand même pas mal. Et c'est pas impossible.
Je crois que c'est une proposition qui fait consensus. Hein. La simplification, c'est ce que tout le monde demande.
Oui, mais c'est un faux consensus. Non, non, ça fait pas du tout consensus.
Ah ouais ?
Non, parce qu'en réalité, tout le monde est d'accord sur le principe, mais personne n'est d'accord sur les modalités.
Bien sûr.
Et donc...
chacun veut ramener sa touche.
Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien à l'Assemblée nationale, où se vote cet après-midi une loi de simplification, et les députés sont en désaccord complet sur les modalités... et les secteurs dans lesquels la simplification
est faite. Gros sujet. C'est très français, en fait, hein, ce millefeuille,
millefeuille administratif. Oui, c'est très français. En même temps, quand on regarde de près un certain nombre de droits, on s'aperçoit que les droits anglo-saxons...
C'est pareil.
C'est pas...
mieux.
Non, non. Il y a, franchement, la société est devenue très complexe et donc demande un droit très complexe pour la régir. Alors jusqu'où on ira, voilà, c'est la question.
Eh bien, merci infiniment, en tout cas, pour cette interview. Hugues Périnet-Marquet, et puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour une toute nouvelle table ronde sur Radio Immo.
Les 60 ans de la copropriété, entre héritage et renouveau, en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâti Santé, jeudi 10 avril 2025 sur Radio Immo.